midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer que oui, il est possible de changer les choses et que certains s'y attellent au quotidien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme et vous allez voir que des sociétés en ont fait un combat pour les employés, qu'il y a aussi des entreprises et des associations qui travaillent à leur mieux-être et à celui de leur famille. Il n'est pas superstitieux, il a créé son premier magasin un vendredi 13. Ça lui a porté chance. Eric Kayser est devenu depuis 1996, l'un des rois de la boulangerie, c'est l'entreprise qui va bien, merci. Et puis se faire préparer des petits plats par des as de la cuisine en local, juste à côté de chez vous, c'est possible. La solution s'appelle Avec Appétit en un seul mot, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez comme chaque jour la parole, venez témoigner Anissa si vous faites partie par exemple des familles qui sont concernées par l'autisme en France.
Vous pouvez témoigner, vous pouvez également poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin jusqu'à 14h, n'hésitez pas, c'est dès maintenant que ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez également appeler Europe 1 le 39-21, vous connaissez le numéro par cœur maintenant, 50 centimes la minute Raphaël.
Car il y a 700 000 personnes atteintes aujourd'hui en France d'autisme d'une forme ou d'une autre d'ailleurs. 100 000 enfants et encore, on va le voir ensemble, beaucoup d'idées reçues. On va essayer d'en faire tomber quelques-unes aujourd'hui parce qu'il y a des acteurs qui agissent au quotidien pour changer justement le regard. À mes côtés pour en parler, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Riad Boulanoir qui nous accompagne. Bonjour Riad.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Fondateur
à toutes.
De la méthode Boulanoir, cofondateur du compte Nickel, j'en passe évidemment. C'est souvent, et vous serez probablement d'accord avec moi, par des expériences personnelles que commencent les belles aventures. C'est un peu ce qui s'est passé pour El Picto. Bonjour à Tony Alebi.
Bonjour.
Merci
Raphaël.
D'être bonjour avec nous. Vous êtes le président de la société Corpus Solutions. Je vais essayer de faire simple. C'est vous qui avez créé El Picto, qui est une application qui aide, si je schématise par des pictogrammes, des dessins, les enfants autistes à communiquer. Je disais expérience personnelle parce que c'est quand vous embauchez Leslie, une développeuse, que tout commence parce que Leslie, qui vient travailler chez vous, chez Equedex hein, à l'époque, spécialisée dans la création d'applis sur mesure. Et Leslie, eh bien, elle a un petit garçon autiste, il s'appelle Gabriel.
Absolument. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est grâce à Karine Mantoulan, qui est la directrice de l'association, qui accueille Gabriel tous les matins, qu'on a créé El Picto. Donc Corpus Solutions est un rassemblement, un assemblage d'Equadex, une société d'informatique toulousaine, et d'Impact, qui est une association toulousaine qui accueille aujourd'hui 100 personnes qui sont porteurs de troubles du spectre autistique ou de la communication.
Et l'association, évidemment, vous la rencontrez grâce à Leslie, puisque Gabriel va dans cette association au quotidien. C'est elle finalement qui fait le lien entre l'association et vous.
Absolument. En fait, Karine est venue me voir en me disant... On est en 2018, c'était en 2018. On est capable avec un smartphone d'envoyer des SMS sans avoir à toucher un clavier, rien qu'avec la voix. Et par contre, quand je veux m'adresser à un enfant qui a un trouble de l'attention, un trouble, un TSA, bien souvent, je dois m'appuyer sur des classeurs de pictogrammes qui ont la fâcheuse habitude de ne pas être forcément très complets. Les pictogrammes se perdent, ils se cassent, ça prend du temps à préparer. Et donc l'objectif, c'était de créer avec un smartphone, avec une tablette, une application qui soit capable, rien qu'à la voix, de pouvoir faire de la traduction comme pourrait le faire du français vers l'anglais, mais cette fois-ci du français vers les pictogrammes et vers les images.
Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que ce fameux classeur que l'enfant ou la famille devait transporter un petit peu partout pour pouvoir communiquer avec des pages à tourner, des pages à ajouter en fonction des pictogrammes.
Beaucoup de soirées passées sur le canapé devant la télé pour préparer les pictogrammes, les plastifier, pour prendre les photos bien évidemment au départ. Et donc ce qu'on a souhaité, c'est vraiment de bénéficier de l'avancée hors technologique. Le smartphone, c'est pas nouveau, mais de pouvoir s'appuyer sur les basiques, c'est-à-dire prendre une photo, alimenter les bibliothèques d'images. On a aussi la grande chance finalement de pouvoir s'appuyer sur une base volumineuse. On a aujourd'hui plus de 3000 pictogrammes grâce à un partenariat avec une société canadienne.
Un éditeur oui, qui vous a aidé et qui vous a mis à disposition ces pictogrammes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant autiste peut, avec cette tablette, avec cette application, dialoguer en appuyant sur la photo de papa, par exemple, pour expliquer que papa va être en retard, on va appuyer sur le visage de papa.
Absolument.
C'est comme ça que ça marche ?
C'est une direction, c'est une communication bidirectionnelle. C'est-à-dire que moi, qui parle, je vais pouvoir m'appuyer sur Elpicto pour finalement rendre persistant l'information et la rendre systématiquement visible à l'écran. Et lui, de son côté, il va pouvoir s'appuyer sur des pictogrammes qu'on aura présélectionnés pour lui. Qu'il connaît déjà, pour finalement émettre des demandes et voilà.
Ça marche depuis quand ?
Alors, la première version a été déployée en février 2018. Et donc on est déployé sur les stores, donc l'Apple Store, le Google Play depuis ce moment-là, avec des téléchargements qui se font depuis cet instant.
Et aujourd'hui, vous allez aller plus loin, vous avez décidé de changer un petit peu les choses, d'avancer justement pour démocratiser l'utilisation de cette application.
Alors la grande décision, ça a été d'abord de créer Corpus Solutions, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu se concentrer sur cette activité qui est l'applicatif Elpicto, mettre toutes les chances dans notre panier pour aller le plus loin possible. Effectivement, demain, l'objectif, c'est de faire en sorte de continuer à le faire évoluer. On sait déjà que Elpicto, aujourd'hui, étant une application connectée, il faut la rendre non connectable pour que ça puisse être accessible en tout lieu, en tout temps, et réellement en tout lieu et en tout temps. Et après, c'est aussi faire en sorte de pouvoir le déployer sur des territoires à l'international notamment. On a eu la chance de participer au CES au mois de janvier. On a eu un écho finalement du public américain qui fait qu'on sait déjà pertinemment que sur le territoire américain, il y a une attente.
Elisabeth, il existe déjà quelques objets pour accompagner les enfants autistes. Vous en avez trouvé quelques-uns ?
Oui, par exemple, le robot Leka, qui a été créé à Angers. C'est un robot interactif, éducatif, avec des jeux qui permettent là aussi des stimulations sensorielles à travers les couleurs, les sons, les vibrations, les émotions, les mouvements. Et ce robot vise à susciter donc l'intérêt de l'enfant et l'aider à entrer en contact, à réagir avec son entourage. C'est pour l'aider avant tout à se concentrer et à s'engager dans une activité.
Dispositifs qui peuvent évidemment être complémentaires.
Absolument.
Que dit notre coach de cette initiative, créer finalement une société au service de ces enfants autistes ?
Déjà, je lui dis bravo, parce que c'est bien de s'intéresser à ces causes, parce que c'est servir à l'intérêt général. Maintenant, ma question, c'est comment on réconcilie l'intérêt entrepreneurial, c'est-à-dire comment on finance tout ça ? C'est des années de développement, comment on le finance ?
Alors, déjà, l'histoire, elle a commencé grâce à une fondation pour la recherche, qui est la fondation John Bost, qui a permis finalement d'amorcer le développement de l'application Elpicto. Il y a beaucoup de fonds propres, faut pas le cacher aussi, c'est important, ça marche comme ça aussi dans l'entrepreneuriat.
Oui, c'est vraiment s'investir complètement,
absolument.
Y compris financièrement.
Et l'idée, c'est que pour pérenniser cette opération-là, on va enclencher la commercialisation d'Elpicto et on sera de l'ordre de 6 euros par mois par utilisateur.
Donc avec un abonnement ?
Absolument, oui. Mais le plus restreint possible, on sait aujourd'hui que les familles, elles n'ont pas forcément... elles ont déjà énormément de choses à investir, des accompagnements à mettre en place.
Mais elles ont un reste à charge qui est important aussi.
Exactement.
Vous dites que c'est une avancée aussi pour d'autres personnes qui peuvent bénéficier de cette application auxquelles on ne penserait pas forcément. C'est un outil qui parle à environ 2% des enfants, c'est-à-dire pour les enfants qui sont dysphasiques par exemple. Je crois que vous connaissez bien le problème.
Oui. Oui.
Vous êtes troublé du coup.
Oui, tout à fait.
Parce que vous dites quand on a dans sa famille, par exemple, un enfant qui est dysphasique, qui a des difficultés pour s'exprimer ou pour comprendre certaines choses, ça peut être quelque chose qui fait le lien, cette application, ou en tout cas l'aider.
En fait, Elpicto, effectivement, c'est pas dédié exclusivement au monde de l'autisme. On sait qu'il n'y a pas un autisme, il y a des autismes. On va se concentrer essentiellement sur les autistes qui ont ces troubles de la communication, avec la nécessité de pouvoir s'appuyer sur un langage qui soit visuel. Effectivement, il y a le cas de la dysphasie. La dysphasie, qui est ce trouble du langage, qui fait en sorte, vous savez, quand vous êtes papa et qu'à un moment la maîtresse de votre enfant vous dit votre fille, elle reste sur le banc à côté des adultes, parce qu'en fait le reste des enfants ne la comprennent pas. C'est aussi un déclencheur qui fait que dans une vie, il faut prendre des décisions importantes.
Bien sûr.
Alors ça part de là. Mais voilà, Elpicto, ça a cette vocation de faciliter l'inclusion, de faciliter la communication et de faire en sorte aussi, j'ai pu le constater par moi-même, mais de nous donner à nous aussi la chance de rentrer dans leur monde.
Et on va voir qu'il y a évidemment d'autres applications possibles. On va rester ensemble et on va continuer à parler autisme aujourd'hui et solutions sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Changer le regard, c'est aussi aider les personnes atteintes d'autisme à s'insérer professionnellement. Cette fois, c'est la mission d'Avancode qui en a fait, vous allez le voir, son combat. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. Nous découvrons les solutions, les innovations qui existent pour faciliter le quotidien des personnes atteintes d'autisme. Vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Hashtag Europe 1 pour Twitter. 3921, c'est le standard.
On a tous entendu certains secteurs professionnels se plaindre de ne pas trouver du personnel à embaucher. C'est le cas dans le numérique, hein, par exemple, où chaque année, il y a des postes à pourvoir et personne en face pour les occuper. C'est un peu fort de ce constat qu'est né Avancode. Bonjour Laurent Delannoy.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Cette start-up, vous l'avez cofondée avec votre compagne. On est à l'époque en 2016 avec, je le disais, l'ambition finalement d'aider des personnes en situation de handicap et des personnes éloignées de l'emploi. Ce sont, je crois, des membres de votre famille qui vous ont en quelque sorte un peu aiguillé, un peu ouvert les yeux sur la situation des personnes handicapées.
Exactement. Il y a toujours un petit lien affectif, on va dire, à tout projet social. Et moi, je l'ai trouvé en échange avec des membres de ma famille qui sont en situation de handicap, dans le cadre d'une volonté avec Laurence de créer une organisation, une entreprise qui nous permettrait de travailler ensemble et qui soit basée sur des valeurs communes.
Donc le social.
Donc le social.
C'est assez naturellement que vous commencez à embaucher des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Mmh. Vous êtes allé voir des associations qui vous ont aidé, qui vous ont aiguillé ?
Oui, à la base, nous ne connaissions pas de personnes avec un trouble du spectre autistique autour de nous. On a créé un business model, on va dire, qui a, comme vous le dites si bien, l'objectif d'amener des personnes éloignées de l'emploi vers les métiers du numérique. Donc on est vraiment un tremplin, avec une méthode qui a pour objectif d'augmenter l'employabilité de nos collaborateurs pour qu'ils finissent soit chez nos clients, soit qu'ils aient des CV recherchés. Et donc à partir de là, on a commencé à monter ce business model et c'est seulement après qu'on a rencontré des personnes qui nous ont demandé de réfléchir sur le fait que ce business model pourrait être adapté aux personnes avec un trouble du spectre autistique.
Oui, parce que les personnes qui sont Asperger, par exemple, justement, ont des dispositions pour travailler dans ce domaine en particulier.
Oui, assez. C'est quand même certaines particularités du système de fonctionnement est basée quand même sur de la logique. Et il y a une étude qui a été faite par un grand éditeur international, SAP, qui date de maintenant 7 ou 8 ans, qui a mis en exergue le fait que justement ces systèmes de fonctionnement induits à l'autisme faisaient partie des choses qui étaient demandées par les métiers de testeurs et de développeurs en informatique.
Mais alors racontez-moi, vous faites comment ? Vous concevez l'entreprise avec eux, pour eux ? Vous avez eu besoin de travailler avec du personnel qualifié pour adapter finalement l'entreprise ? Comment ça s'est passé ?
Oui, bien sûr, ne connaissant rien, étant candide sur le sujet et vu qu'on s'adressait à des personnes sensibles, on a cherché à se faire accompagner. Tout d'abord par le CRA, le Centre de ressources autistiques, qui est un organisme d'État qui est présent dans tous les départements ou régions, qui fait les diagnostics aussi pour les enfants et les adultes. Après, on a travaillé avec des neuropsychologues. Et très vite, en gros, je vais vous l'expliquer un peu de façon plus réelle. Il y a deux de nos collaborateurs qui sont venus nous voir, qui nous ont dit que c'était très bien ce que l'on faisait et qu'eux, en tant qu'autistes Asperger, ils étaient un peu lassés du fait que ce soit les neurotypiques, donc les personnes non autistes, qui parlent pour eux, qui s'expriment pour eux et qui leur expliquent comment faire. Donc on est parti sur ce qu'on appelle un management participatif. On peut dire que maintenant, le concept ou l'évolution ou le quotidien d'Avancode, que ce soit aussi la méthode et ce que l'on fait au jour le jour, est construit avec nos collaborateurs.
Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que par exemple, hein, et je pense que ça va parler à tout le monde, vous n'avez pas de téléphone fixe, vous n'avez que des portables
voilà.
Dans l'entreprise. Ça faisait partie des choses qu'il ne fallait pas mettre.
Ça fait partie des choses qu'on nous a demandé clairement si on pouvait éviter, parce que on a un téléphone portable qui est par bureau. Donc actuellement, on a 4 bureaux, 4 plateaux, comme on dit en informatique, avec un téléphone portable qui est voilà. J'ai aussi des anecdotes comme ça où j'arrive un matin et puis j'envoie un SMS parce que je suis un peu pressé, en retard, donc je veux avertir. Puis arrivé devant la collaboratrice, je lui dis bah tu as pas eu mon message. Puis là, je vois son visage déçu et gêné qui se penche sur le téléphone qui est éteint dans la boîte. Voilà. Donc les téléphones, c'est surtout pour faire des appels sortants,
mais
et pour
pas,
essayer de me joindre en cas d'urgence,
mais pas
d'appel entrant. Voilà, c'est intrusif et c'est surtout un changement non préparé. Cela aussi, sur les idées qu'on a de l'autisme, les personnes autistes ne sont pas réticentes au changement, elles sont réticentes au changement intempestif. Donc il faut bien préparer les choses et elles sont les premières. Voilà, nous, on en est la preuve parce qu'on vient avec des nouveaux projets à peu près tous les 3-4 mois sur des technologies différentes et ils sont toujours aussi passionnés.
Combien de personnes est-ce que vous employez ? Vous êtes à Nice, mais vous êtes aussi à Marseille désormais.
Depuis un mois, oui. Voilà, on a ouvert une agence à Marseille. Alors à Nice, justement, on a fait les comptes un peu hier, donc on est à 19 personnes, dont 18 personnes en situation de handicap et 14 personnes avec un trouble du spectre autistique. Et puis là, on a commencé il y a un mois à monter une petite équipe de testeurs de 3 personnes. Tout autiste Asperger, et on va faire évoluer l'équipe vers plus de diversité pour avoir plus d'inclusion. C'est un changement de stratégie qu'on a mis en place depuis début janvier.
Que dit notre coach, Riyad ?
Moi, je me demandais, est-ce que aujourd'hui, le fait d'employer du personnel autiste, est-ce que c'est un avantage client, quoi ? Est-ce que les clients viennent pour ça ?
Alors, ce qui est bien, justement, sur les 3 ans de vécu que nous avons, on a une évolution. Alors, au début, on venait par curiosité. Il y a un petit levier financier par rapport à la loi diversité 2005, mais ça n'a jamais été la première motivation chez nos clients. Il y a surtout le fait qu'on est dans du high-tech, que, comme vous le disiez très bien, Raphaël, on est sur des métiers sous tension. Il manque 15 000 développeurs et testeurs par an. Et il y avait cette envie d'essayer. On commençait il y a 3 ans à parler un peu de l'autisme, et cela progresse d'année en année, et c'est excellent. C'est très bien pour la cause autistique. Et donc, les personnes ont commencé à venir là-dessus. Ce qui est plaisant, c'est qu'après avoir fait 3, 6 mois ou un peu plus, ils sont restés et ont tous développé les activités avec nous. Et là, maintenant, j'ai eu le plaisir cette année d'avoir 2 sociétés qui nous ont contactés avec une problématique, en nous disant voilà, j'ai ce problème-là, j'ai rencontré monsieur un tel ou madame un tel, ils m'ont dit qu'ils travaillaient avec vous et que vous pourriez certainement répondre à mon besoin. Et là, on se dit qu'on est en train de gagner quelque chose au niveau de la reconnaissance des qualités
c'est
professionnelles.
C'est la qualité qui prime. Maintenant.
Voilà, c'est ça.
C'est la qualité qui prime. Est-ce que c'est pas une revanche finalement ? C'est une belle revanche finalement. De dire,
pas pour moi, pour mes collaborateurs certainement, oui. Mais oui, non, ce qu'il faut bien voir, c'est aussi le concept d'innovation sociale en tant que création de start-up. On est quand même au début, il y a 3 ans, c'était, comme je dis souvent, c'était un PDF de 12 pages et 8 slides. Donc, il fallait taper
aujourd'hui,
aux portes.
Aujourd'hui, c'est concret.
Voilà, et quand vous allez voir un responsable d'entreprise ou un directeur informatique pour lui dire, au lieu d'embaucher des ingénieurs, vous allez embaucher des gens qui ont un bac, qui sont en situation de handicap avec un trouble du spectre autistique, il faut que la personne en face ait quand même envie de risquer cette tentative, du moins de faire cette tentative. Bon, après, maintenant, on sait après 3 ans que le risque est un peu modéré. Mais voilà, moi, l'idée, c'est d'exprimer que c'est surtout des gens que l'on rencontre et qui font avancer ce genre de projet. Et c'est vrai que, voilà, après 3 ans, on commence à avoir des retours qui nous font très chaud au cœur, à la fois de ce côté-là aussi et à la fois de nos collaborateurs.
Bravo. Alors, vous parlez du cursus professionnel. Évidemment, il y a aussi le cursus scolaire. Hein. Elisabeth, c'est un volet important. Et là aussi, il y a des initiatives qui sont en cours.
Mais oui, parce que 20% des enfants autistes sont déscolarisés. Alors, par exemple, j'en ai relevé quelques-unes. Vous aviez l'association Éclosion Bleue qui a recensé 40 cas d'enfants autistes à Compiègne. Et là, une classe va enfin ouvrir à la rentrée. Ou encore à Dieppe, une unité dédiée aux jeunes autistes vient d'être créée au sein d'une école élémentaire en Seine-Maritime. C'est un dispositif qui n'existe que dans 4 villes en France. Dans ce cadre là, du 4e plan autisme 2018-2022, c'est une expérimentation qui doit se prolonger donc durant 3 ans et avec comme objectif d'ouvrir 45 unités en France donc d'ici la fin de ce 4e plan autisme en 2022.
On reste ensemble et on parle autisme aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h20.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Aider les familles dont les enfants sont atteints d'autisme, c'est l'ambition que s'est fixée l'ADAPI du Var. Elle a créé
une maison de répit, la première dans le Sud-Est. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. Nous découvrons les solutions et les innovations pour faciliter le quotidien des personnes atteintes d'autisme. Vous pouvez réagir à cette émission. Nous avons déjà des témoignages et des questions. N'hésitez pas, hashtag Europe 1 pour Twitter, 3921 pour appeler Europe 1.
Et Elisabeth le disait il y a un instant, c'est aujourd'hui le quatrième plan autisme qui est mis en œuvre. Et dans le précédent, qui s'est achevé en 2017, une ambition avait été annoncée, créer une maison de répit par région pour aider les parents, les familles d'enfants autistes à souffler justement. Bonjour Patrick Debieuvre.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de l'ADPI du Var, qui est une association départementale pour les enfants et pour les adultes handicapés. Et c'est vous qui avez justement créé dans le Sud-Est la toute première maison de répit de la région. Elle s'appelle Belle Étoile, elle est à Pierrefeu. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison? Faites-nous entrer, faites-nous visiter.
En fait, l'origine de la création de cette maison, c'est une rencontre avec Églantine Émeillé, qui elle-même est maman d'un enfant autiste. Et nous cherchions avec Marcel Ruffo, qui nous a soutenus dans la création de ce projet, une solution adaptée pour ces enfants qui n'ont aucun répit, mais aussi pour leurs parents et leurs frères et sœurs. Parce qu'en fait, une famille, c'est un système. Et pour les parents, c'est très très difficile de combiner une activité professionnelle et en même temps s'occuper au quotidien d'un enfant autiste. Or, nous avons créé cet établissement pour justement apporter une réponse à ces familles. Et l'originalité de ces structures, c'est qu'elles accueillent des enfants âgés de 6 à 20 ans sur des courtes périodes. Ça peut être le week-end, ça peut être sur des périodes de vacances scolaires. Bref, des temps adaptés à chaque projet familial.
Il existe d'autres types de structures. Je pense évidemment aux IME, aux instituts médico-éducatifs. C'est encore autre chose, on est dans un autre concept.
Oui, alors ce qu'il faut préciser, en effet, d'ailleurs notre structure dépend par extension d'un institut médico-éducatif. Mais sur cette structure, c'est effectivement un autre concept parce qu'on va accueillir en file active, c'est-à-dire de manière continue sur l'année, des enfants sur des périodes assez courtes. Ça veut donc dire qu'il nous faut en amont préparer l'accueil de ces enfants, ce qui n'est pas chose aisée parce qu'on ne les connaît pas au départ. Et c'est à chaque fois un pari en fait. Et en fait, on a trois missions sur cette structure. Permettre aux familles d'avoir un vrai temps de répit, permettre à des structures médico-sociales de type IME aussi, quand ils ont des difficultés avec un enfant autiste, de nous le confier temporairement pour soulager les équipes et avoir un autre point de vue, un autre diagnostic, un autre éclairage sur la situation de l'enfant. Et donc, du coup, de leur permettre d'adapter des formes d'intervention. Et puis, on a une troisième mission qui est d'accueillir dans l'immédiateté, dans l'urgence, quand il y a des situations de crise notamment.
Vous avez dû adapter la maison, la penser aussi avec les parents, avec les enfants. Je pense aux angles, je pense au lit, par exemple. Il faut que l'enfant puisse ne pas dormir dans un lit s'il n'en a pas envie.
En effet, en fait, on essaie de réfléchir en amont quel projet architectural privilégier compte tenu du profil de ces enfants. Et donc, on a fait une étude avec l'association Imparvalide la vie qui nous a aidés, avec un designer, un architecte d'intérieur, et on a questionné les parents. Parce qu'en fait, les premiers experts dans la manière d'accompagner leurs enfants, ce sont les parents, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et effectivement, on a réfléchi des aménagements qui peuvent paraître simples comme ça, mais qui sont tellement importants pour les enfants accueillis. Donc effectivement, on a par exemple, ça peut vous surprendre, mais tous les murs effectivement de cette maison sont arrondis, ce qui évite quand ils se cognent, parce que certains ont des comportements avec de l'automutilation. On a par exemple aussi dans les chambres, donc ils ont des chambres personnalisées, et certains enfants ne peuvent pas dormir dans un lit normal. Parfois, ils préfèrent dormir sur un matelas au sol. Ou parfois même, on a expérimenté des petites astuces. On a mis des tentes quechua dans la chambre. Et le côté contenant...
Côté cocon, ça les rassure.
C'est ça, ça les rassure. Et alors, on a des parents qui ont été ravis qu'on leur donne cette petite recette, en fait, qu'on avait découvert un peu par hasard. C'est en observant et en écoutant qu'on trouve des solutions. C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode spécifique qui est à privilégier, parce qu'il y a tellement de troubles autistiques différents que à chaque fois c'est du sur-mesure dans l'accompagnement.
On reste ensemble, on va faire une petite pause et on revient tout de suite parler autisme aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. On en parle aujourd'hui sur Europe 1. La France bouge, il existe des solutions, des innovations pour faciliter le quotidien des personnes atteintes d'autisme. Vous pouvez réagir, témoigner et poser toutes vos questions. Hashtag Europe 1, vos messages qu'on lit sur Twitter. Et pour nous appeler, c'est le 3921.
Nous sommes avec Riyad Boulanoir qui est notre coach aujourd'hui. Elisabeth Assayag est à mes côtés. Nos invités aussi, Anthony Alébé, président de la société Corpus Solutions qui commercialise cette application El Picto. Laurent Delannoy, cofondateur d'Avencode, une entreprise qui s'est adaptée justement aux autistes pour pouvoir les aider à aller vers l'emploi. Et puis Patrick Debieuvre, qui est directeur de l'association ADAPEI VAR et qui a mis en place le projet de la maison de répit Belle Étoile à Pierrefeu. Je voudrais qu'on s'y arrête justement sur cette maison. On a cherché, il y en a quatre pour l'instant. Et pourtant, on le disait dans le plan, normalement, il y en avait une par région. Comment se fait-il que toutes ne soient pas ouvertes?
Alors, la question, parce il faudrait que davantage
des,
la poser aux financeurs.
Je
oui,
suppose.
Oui, oui, ouais. Effectivement, il est très difficile de...
Mais la volonté affichée, elle était nationale.
La volonté existe. Elle est confortée, d'ailleurs, dans le quatrième plan autiste. Pour autant, il est vrai que toutes les régions n'ont pas pu mettre en place ce type de structure. Nous-mêmes, pour créer cet équipement, nous avons fait appel à des financements privés nous permettant de réaliser l'investissement, ce qui était d'ailleurs un budget assez conséquent. Et aujourd'hui, l'Agence régionale de santé nous soutient dans tout ce qui concerne le budget de fonctionnement. Nous avons une dotation globale annuelle nous permettant de financer les postes.
Il a fallu faire appel à des fonds privés tout de
même. En effet.
Oui, parce que vous avez quand même 13 salariés, hein, c'est ça ?
13 salariés,
en
effet.
Dans la maison de répit.
En effet, donc c'est une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs spécialisés, d'aides-soignantes, psychologues, psychiatres. Et effectivement, le fonctionnement courant est assumé par les financements publics, mais l'investissement a dû être assumé en cherchant des donateurs, des fondations, des dons privés, en fait, de particuliers qui nous ont soutenus pour réaliser ce projet.
Elisabeth, justement, ce quatrième plan autisme, vous nous en dites un mot, côté financement par exemple.
Côté financement, alors là, ça va être on prévoit une enveloppe d'environ 344 millions d'euros, ça c'est 344 millions qui vont être dégagés, mais il reste 53 millions d'euros de crédit de 2018 du troisième plan, donc on est à peu près à 400 millions d'euros enveloppe globale pour ce quatrième plan autisme 2018-2022.
Oui. Il y a pas mal de choses qui vont changer pour les familles.
Alors concrètement, PMI, médecins généralistes, médecins de famille auront normalement des outils très simples pour mesurer les écarts de développement des enfants, pour dépister les niveaux d'alerte et les diagnostiquer le plus tôt possible. Par exemple, mon enfant ne me regarde pas, il ne veut pas me donner la main, il joue dans son coin. Là, on ne va pas leur dire revenez dans un an, ce n'est pas grave, ça va passer. Non, là, les médecins, les pédiatres vont être formés massivement. Pour vous donner une idée, 50% des généralistes et 20% des pédiatres n'ont reçu aujourd'hui aucune formation sur les troubles du spectre autistique. Ça va changer dans ce plan-là. Et si on repère un problème chez un enfant, il y aura une plateforme, un parcours coordonné. Les enfants n'auront plus à débourser quoi que ce soit, notamment pour les enfants âgés de 0 à 7 ans. On va passer à zéro reste à charge.
Anissa, on a des messages sur le hashtag Europe 1 sur Twitter.
Oui, on a Soldat Guerrier qui nous dit « Pour moi, pas assez de sensibilisation dans les classes concernant l'autisme, c'est bien dommage. »
Vous êtes d'accord? On devrait peut-être plus sensibiliser. C'est possible aujourd'hui de faire autrement? Qui veut répondre?
Je peux donner un élément de réponse.
Allez-y, je vous en
c'est,
prie, Patrick
c'est possible de favoriser davantage l'inclusion scolaire des jeunes enfants. Mais il est vrai qu'il faut que l'on puisse former les enseignants et leur apporter un soutien. Parce que vous avez aussi les autres enfants de la classe et les autres parents qui ne sont pas habitués. En fait, en France, il nous faut développer une culture de la différence, l'accueil de la différence et apprendre à manager ces aspects. Ce qui n'est pas chose aisée. Il y a une vraie dimension culturelle à promouvoir sur ce sujet.
Anissa ?
Maximilien nous dit aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Découvrir à plus de 50 ans que l'on souffre depuis sa naissance de TSA, de troubles du syndrome autistique, c'est aussi comprendre que sa vie est pourrie à cause de cela. Pas de relations sociales, par exemple. Penser
aux avenirs des enfants. Prenez soin des enfants.
Oui, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros travail à faire, hein, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau scolaire. Justement, au niveau scolaire, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais avec El Picto, vous êtes en train de travailler pour les lycées professionnels, par exemple, à des applications qui soient un peu du sur-mesure, par exemple dans les lycées hôteliers.
Alors, pas forcément du sur-mesure, mais dans El Picto, il y a deux fonctionnalités qui est la première, l'outil de communication bidirectionnelle, qui va permettre de s'appuyer sur l'IA pour faire la traduction du langage en images et inversement. Mmh. La deuxième application, c'est un outil de gestion des rituels du quotidien pour faciliter la vie des parents, donner plus d'autonomie aux enfants grâce à la succession sur des actions très simples du matin, quand on s'habille, qu'on veut mettre le pantalon, le caleçon et ainsi de suite. C'est décomposer toutes ces opérations-là en étapes et faire en sorte que le jeune puisse être autonome et aller jusqu'au bout.
Dernière question pour vous, Laurent Delannoy. La suite, c'est quoi ? On a dit Nice, on a dit Marseille. Vous allez en ouvrir d'autres ?
Tout doucement.
Tout doucement,
mais sûrement. Parce que les journées ne font que 24 heures. Mais oui, non, c'est l'objectif. Notre objectif étant une entreprise sociale, et bien de créer le lien entre nos équipes et nos clients de façon locale, et l'économie locale aussi, pour qu'ils puissent, après 2-3 ans... Et pris le temps de refaire leur CV pour qu'ils soient chassés par les entreprises normales. Donc, on espère pouvoir ouvrir des agences de 15-20 collaborateurs et parsemer ça selon les besoins.
Et on l'espère aussi. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission aujourd'hui en Merci. Direct sur Europe 1. Merci.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Qui oserait ouvrir son magasin un vendredi 13 ? Eric Kayser l'a fait, c'était en 96. Depuis, ses boulangeries prospèrent. C'est dans 2 minutes l'entreprise qui va bien. Merci.
Europe 1.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Il est temps de découvrir, Raphaël, l'entreprise qui va bien, merci. Elle est française, forcément. Et alors aujourd'hui, elle est très gourmande, cette entreprise.
Oui, et cette entreprise, elle est devenue en un peu plus de 20 ans un des grands noms de la boulangerie. Bonjour Eric Kayser.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes issu d'une famille de boulangers. Vous dites, à 4 ans, je rêvais déjà d'être boulanger comme mon père, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père.
Oui, je rêvais de faire de la boulangerie et de voyager dans le monde. J'avais cette passion du monde, de conquérir le monde, d'aller voir le monde, d'aller apprendre et puis de faire du beau pain. C'est ce qui me passionnait.
Donc vous avez directement plongé dans le monde de la boulangerie tout jeune, hein,
J'ai plongé à 15 ans et demi,
ouais,
en apprentissage. C'est très dur, hein, quand on commence à minuit, le soir à l'époque on commençait à minuit et vous avez les copains qui sortent ou qui vont danser ou qui vont faire un tas de choses et vous allez travailler. Il faut vraiment être très motivé pour le faire, mais je crois que quand vous avez une passion... Et si vous allez au bout de votre passion, vous pouvez faire des belles choses.
Et alors, vous rejoignez aussi très vite les compagnons du Tour de France. On est 2-3 ans après.
Oui, 2-3 ans. J'avais 19 ans, sorti de l'armée. J'avais passé 6 mois au Liban. J'avais appris à vivre en communauté. Après, je suis allé chez Compagnons pour parfaire cette expérience, j'allais dire, d'apprentissage et de formation et de transmission. Et je crois que c'était une belle éducation pour moi, une belle formation.
Quand est-ce que vous ouvrez votre première boutique ? 1996, vous avez quel âge ?
Ouais, j'avais 32 ans.
Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps ? Vous avez continué à voyager, à vous inspirer, à aller chercher des idées et à former du monde ?
Oui, j'ai continué à voyager énormément, à apprendre beaucoup, à transmettre ce que je pouvais, être formateur. Et également, commencer à créer des machines et des farines, par exemple, spécifiques pour pouvoir faire des pains qui soient un peu différents de tout ce qu'on trouvait. C'est vrai que la boulangerie est à l'époque en son renouveau, hein, on l'a réinventé. Et je crois que c'est ce qui a permis à ce métier aujourd'hui de bien fonctionner, c'est qu'on l'a réinventé au bon moment.
Oui, vous l'avez réinventé, première boutique Rue Monge. À Paris. Aujourd'hui, vous avez 280 boulangeries dans 28 pays.
Oui, on a surtout ouvert dans des pays développés, mais également dans des pays en voie de développement. C'est ce qui me passionnait aussi, c'était de voir comment on pouvait former les gens, leur donner un métier, leur donner des armes pour pouvoir faire un beau métier. Et aujourd'hui, on est en train de regarder avec le Cambodge, avec PSE, pour un sourire d'enfant, pour pouvoir faire une école pour rééduquer les jeunes qui vivent dans les bidonvilles ou ils appellent ça dans les poubelles, les former à un métier pour qu'ils puissent faire quelque chose de beau. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Ouais.
On entend que votre passion, c'est le pain, depuis toujours. On en a quelques exemplaires, hein, et j'ai envie de dire, parce que vous en faites évidemment des différents en permanence. Tous les mois, il y en a dans vos boulangeries. Qu'est-ce que vous nous avez amené ? Il y a des pains différents à côté de moi. Oui. Vous pouvez les voir, hein, si vous êtes avec nous sur europe1.fr. Celui-ci, par exemple, ça sent le chocolat.
Oui, alors ça, c'est fève de tonka. C'est ce qu'on appelle le pain du mois. Donc, fève de tonka et noisette mélangée avec un pain avec un peu d'huile d'olive et un peu de miel. C'est juste extraordinaire pour le petit déjeuner,
odorant.
Pour le goûter. On a
celui-ci,
le pain au curcuma.
Oui,
j'ai ramené ça. J'avais après utilisé le curcuma en Inde, bien sûr, avec des noisettes. Et ça se marie très, très bien avec le poisson ou les salades. On a à l'extrême gauche, là, le pain, ce qu'on appelle des anciens. C'est une boulangerie, celui-là, oui, qu'on a démarré à Austerlitz, avenue Pierre Mendès, France. On a voulu retravailler avec des farines donc très anciennes, avec très peu de protéines, très peu de gluten, puisqu'on faisait du sans gluten, on faisait du pain avec gluten, et on a fait ce pain semi-gluten, on peut dire avec 7% de protéines. Et tous les gens qui se sentent un peu allergiques au gluten, c'est-à-dire qu'on a 1% de cœliaque, mais on a une dizaine de pourcents de gens qui se sentent un peu allergiques au gluten, peuvent manger ces pains sans aucune difficulté, et très pauvres en gluten, et très très bons, et surtout fabriqués au levain naturel avec des farines biologiques.
Chacune de vos boulangeries a un pain signature ?
Oui, c'est très compliqué, hein. Oui.
Et vous avez en plus les pains nouveaux chaque mois ?
Oui, on les fait tourner en fonction des pays, ça tourne un peu différemment.
Où est-ce que vous trouvez toutes ces idées ?
J'ai la chance de voyager énormément, la vie m'a donné cette chance, c'est de pouvoir apprendre. Et puis je regarde, oui, je voyage les yeux grands ouverts et je vais apprendre comment on utilise des épices, comment on utilise des ingrédients et je les mélange avec le pain.
Mais comment on fait pour rester artisan dans l'âme quand on a 280 boulangeries ?
Ça, c'est une très, très bonne question. Vous savez, la définition de l'artisanat en boulangerie, c'est je pétris et je cuis sur place. Et nous, on pétrit, on cuit dans chacun de nos magasins. Alors, si Eric Kayser devait faire le pain partout, c'est sûr que ça serait peut-être pas extraordinaire. Je serais peut-être moins bon que certains de mes chefs boulangers. Mais j'essaie de transmettre de façon à ce que les gens fassent aussi bien ou mieux que ce que je peux faire.
Que dit notre coach, Riyad Boulanoir ?
Moi, j'ai une question, là. Donc, il y a eu 28 pays. Est-ce qu'il y a eu des pays qui ont dit non parce que le pain, ce n'est pas dans la culture et qu'il n'est pas question de faire venir du pain ? Est-ce que vous avez déjà dit ce cas-là ?
On a des pays où on vend moins de pain. On est plus en café ou en restauration, j'allais dire. Typiquement, par exemple, New York, que tout le monde connaît. On a d'abord attaqué le marché avec... on appelle ça boulangerie, mais surtout avec du snacking, du café. Et quand vous voyez que, par exemple, dans un café normal, par exemple, on vend 3 kilos de café par jour, à New York, c'est 10 à 12 kilos. C'est-à-dire que les gens, on leur fait des shots de 3 doses de café dès le matin avec un peu de lait et ils trempent après leur croissant ou leur pain dans le café. Mais on les attaque différemment, ces pays. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la Chine. Alors, on a ouvert à Hong Kong. On a une dizaine de magasins, ça fonctionne bien. On est en train de regarder ce qu'on pourrait faire en Chine. C'est sûr que si on arrive avec des pains avec beaucoup de croûte et très durs et tout, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils n'ont déjà pas les gencives qui correspondent. On va attaquer en faisant des pains plus mous, plus tendres, plus, qui peuvent intéresser les Chinois.
Ma dernière question. Vous dites qu'il y a un pain pour chaque moment de la journée. Parmi ceux-là, ce serait lequel aujourd'hui ?
Parfois, j'ai envie de tous les croquer, mais je dirais qu'à cette heure-là, moi, je mangerais bien le pain à la fève de tonka parce qu'il me tente. Mais si vous n'avez pas mangé, je vous conseille le pain des anciens.
Oui, chaque pain est fait pour un moment différent.
Pour un moment de la journée. Et puis, je crois que dans chaque boulangerie, on doit trouver des choses un peu différentes, un peu marrantes, un peu sympathiques à manger pour pouvoir être différent.
Eric Kayser, artisan et artiste aussi du pain, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Merci à vous.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va rester à table, vous faire livrer par exemple des plats au bureau, mais préparés à la maison par un cordon bleu. Ça vous tente ? Eh bien, c'est possible. La solution s'appelle Avec Appétit. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, c'est l'heure de la solution du jour, comme tous les jours avant 14h. Et on va passer à table tous ensemble.
Mais oui, on continue. Des repas maison à petit prix avec des plateaux livrés directement au bureau. C'est Avec Appétit qui propose cette solution. C'est une cantine collaborative. Un cordon bleu de votre quartier vient vous livrer au bureau un repas tout juste sorti du four. Ça nous fait rêver, Elisabeth.
Racontez-nous. Oui, Avec Appétit, cantine collaborative qui livre les bureaux du quartier. Ce sont des passionnés de cuisine qui préparent les repas. Hein. Ce ne sont pas forcément des chefs cuisiniers professionnels. Le salarié commande sur le site internet. Il a accès au profil du chef. C'est géolocalisé, donc c'est un menu qui mijote et qui est préparé juste à quelques pas de votre entreprise, à quelques pas de là où vous travaillez. Par exemple, là, j'ai trouvé autour de chez nous de la paella espagnole, un poulet basquez avec des pommes de terre vapeur ou pourquoi pas un osso buco de dinde. Pour 14 euros, vous pouvez commander une formule entrée plat dessert. Avec Appétit est présente dans les zones où il n'y a pas forcément énormément d'offres de restauration, mais beaucoup d'immeubles d'habitation.
Bon, j'espère que vous avez passé commande. Bonjour Fatim Rani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice d'Avec Appétit. Vous êtes trois associés. Elle est née comment cette histoire ?
Alors en fait, elle est née lorsque j'étais encore en stage. Donc j'étais à Dauphine, j'ai fait un stage en marketing à Massy, à Carrefour. Et je me suis rendu compte qu'on était entouré d'entreprises, comme ce qui arrive souvent en zone industrielle, vu que voilà, les loyers sont moins chers. Mais il n'y avait rien du tout pour manger. Et donc, j'ai fait un peu la sortie de toutes les entreprises et j'ai commencé à demander aux salariés où est-ce qu'ils mangeaient. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Ils prenaient leur voiture pour aller au supermarché acheter un sandwich. Donc voilà, pour moi, c'est trop important de bien manger.
Vous avez raison.
Alors, vous avez mis en place Avec Appétit. Vous avez sélectionné des personnes dont cuisiner est une passion.
Exactement. Même fait un petit test où j'étais allée au marché, en fait, et je parlais aux personnes qui faisaient leurs courses. Et comme ça, j'ai rencontré des dames qui étaient adorables. J'ai goûté leurs plats, et on a fait ensemble leurs menus. Et depuis, effectivement, ce sont tous des passionnés de cuisine, donc qui ont des profils assez variés. On a effectivement des personnes au chômage, à la retraite, des mères au foyer, des pères au foyer. Des personnes assez diverses, mais qui ont tout un point en commun, c'est vraiment leur passion pour la cuisine.
Et donc, vous avez mis en place un système de géolocalisation pour qu'on puisse commander en fonction de là où se trouve notre travail. Comment vous faites confiance aux personnes qui cuisinent ? Parce que c'est quand même pas des professionnels.
Oui, alors c'est justement là le point le plus important. Il faut vraiment les sélectionner. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit n'importe qui cuisine sur Avec Appétit. Donc, nous, on va en fait au domicile de ces personnes et on vérifie. On vérifie que l'hygiène corresponde à notre charte. On goûte les repas. Donc, on vérifie que ce soit des produits frais, que ce soit bon, que ce soit en quantité suffisante. Et ensuite, les clients aussi prennent le relais avec le système d'évaluation. Nous, dès qu'un chef a une mauvaise évaluation, tout de suite, on va voir avec le chef ce qui s'est passé et voir si on peut y remédier.
Combien de chefs travaillent avec vous aujourd'hui ?
Alors, on en a plus de 800 qui sont inscrits sur la plateforme, mais on en a 150 d'actifs, donc qui ont eu le process de sélection.
Et vous les rémunérez comment ?
Donc c'est le même système que BlaBlaCar, Airbnb, c'est le client directement qui paye le cuisinier via la plateforme, et nous on prend notre commission au passage.
Riyad ?
Justement, vous prenez votre commission au passage, elle est de combien votre commission ?
Alors en moyenne, par exemple, sur un repas de 9,90 €, le chef va toucher 7,90 € et nous 2 €.
Les tarifs, il y a quand même un seuil minimum, je suppose, pour rémunérer le cuisinier ?
Oui, en fait, c'est de manière générale, c'est justement 7,90 €. Ça, c'est, pour la cantine, c'est à peu près toujours les mêmes prix. Par contre, pour les plats
de repas... Si on est satisfait, on peut payer 12 € si on a envie.
Oui.
C'est un peu à la carte, finalement.
Oui.
Mais il y a un minimum de commandes, j'imagine, puisque vous vous adressez essentiellement aux salariés des entreprises. Donc, j'imagine que la prochaine étape, c'est d'être en contact avec les entreprises elles-mêmes.
Exactement.
Pour remplacer les cantines.
Exactement. Mais aujourd'hui, en fait, on développe des partenariats avec les entreprises pour qu'ensuite les salariés puissent y avoir accès. Parce que sans ça, effectivement, il pourrait y avoir une commande ici, une commande là, et ce ne serait pas avantageux pour les chefs.
Et alors, s'il y a 100 commandes pour une entreprise, il y a 100 chefs, vous faites comment ?
On trouvera un chef qui cuisine en moyenne une dizaine de parts pour que ça reste du fait maison. Mm-hmm. Et donc, du coup, on trouvera 10 chefs qui feront chacun...
Les uns à côté des autres.
Ouais.
Okay.
Avec une question de Thomas, le réalisateur. Les tickets restaurants, ça marche aussi ?
Non, malheureusement, non.
Bon, voilà, c'est important de le signaler. Peut-être une évolution à travailler.
Ouais.
Qui sait ? C'est Avec Appétit. Merci d'être venu nous présenter cette solution. Merci Riyad d'avoir été notre coach aujourd'hui.
Merci à tous.
Demain, nous parlerons des seniors, Elisabeth, à l'occasion du salon qui se tient en ce moment. Et là aussi, vous allez voir que ça bouge.